dirige une collection de romans italiens, enfin, ça s'appelle la Bibliothèque italienne. C'est moi qui m'occupe des auteurs italiens dans cette maison, qui publie aussi énormément d'auteurs sud-américains et puis aussi diverses littératures étrangères, dont l'Islandais Arnaldur Indridason. Je répéterai son nom avec dévotion, puisque c'est un des best-sellers de la maison. C'est lui qui nous fait manger, donc nous sommes heureux qu'il existe. Et puis, il y a aussi une magnifique collection bibliothèque écossaise, une bibliothèque allemande où il y a une auteure qui a eu le prix Nobel. Et puis dans ma collection, la bibliothèque italienne, il y a des auteurs qui sont très bien, dont je parlerai volontiers, si tu me le permets. Je suis à la fois traducteur et directeur de collection, c'est-à-dire que, en fait, j'ai traduit une bonne partie des livres qui paraissent dans cette collection, mais je t'en donne quelques autres à traduire aussi à d'autres traducteurs, qui la plupart du temps sont des traductrices d'ailleurs. Et j'ai le bonheur de ne traduire que des livres que j'aime, parce qu'avec Anne-Marie Métellier, nous avons un principe qui paraît évident, mais qui n'est pas tant que ça quand on connaît le monde de l'édition, c'est qu'on ne publie que des livres qu'on aime. Dans ma collection, il y a un auteur comme Giancarlo De Cataldo, qui est un auteur qui a publié un livre qui a eu un certain succès à une époque, qui s'appelle « Romanzo criminale », et toute la suite, c'est une espèce de saga centrée sur l'histoire de Rome, l'histoire contemporaine de Rome, l'histoire de la criminalité à Rome jusqu'à nos jours. Et c'est un très bon travail. Il y a d'autres auteurs comme Andrea Camilleri, qui est aussi un auteur sicilien qui a un certain succès en France et un succès énorme en Italie, en Allemagne. Et d'autres auteurs comme Giancarlo Lucarelli aussi, qui est un auteur qui raconte dans les romans que je publie, la colonisation italienne, qui était pas moins criminelle que les autres colonisations. Aussi un auteur collectif qui s'appelle Wu Ming, qui sont en fait quatre auteurs bolognais qui écrivent en refusant de passer à la télé, enfin en refusant de jouer la comédie des auteurs, et qui écrivent toujours des bouquins assez passionnant. Celui, le plus gros que j'ai publié d'eux, s'appelait Manitouane. C'était sur la conquête des États-Unis, vue du côté des perdants, c'est-à-dire du côté des Indiens. Enfin, la guerre d'indépendance des États-Unis, vue du côté des Indiens. Comment ils se sont retrouvés pris entre deux feux, entre les troupes anglaises et les insurgés américains, qui étaient censés représenter la liberté, mais qui, en fait, pour eux, représentait pire, bien un sort pire que ce qu'ils avaient connu jusque-là. Et puis d'autres auteurs aussi, comme Gioacchino Criaco, un auteur calabrais qui a écrit des livres magnifiques qui se passent à la fois dans la Calabre profonde et dans le monde entier. Et voilà. Et pour faire une transition, c'est un peu ce que j'essaye de faire dans mes romans, c'est-à-dire de parler à la fois d'un territoire bien précis et du monde entier. Et c'est ce que je faisais avec ce que j'ai fait avec ma trilogie de Belleville. C'était Y, Rue de la Cloche et La Forcenée, qui sont parus aussi chez Métellier, et où je parle d'un quartier qui est Belleville, et du reste du monde, des choses qui se passent au Japon, qui se passent dans divers pays du monde, et l'influence qu'elles peuvent avoir sur ce recoin du monde qui est Belleville. Et bon, ça fait partie des choses qui orientent mon travail, c'est de montrer à la fois comment la dimension territoriale, la dimension locale, est très riche, apporte beaucoup de poésie et d'imaginaire, et en même temps, on ne peut pas la couper aujourd'hui du reste de la planète, quoi. Tout ce qui se passe à l'autre bout de la planète peut avoir de l'influence, y compris sur le plateau de Mille Vaches.
Même sur le plateau de Mille Vaches.
Voilà.
Qui est le point de départ donc de Loup solitaire, c'est ça,
voilà,
le roman que je n'ai pas lu.
Au pluriel. Loup solitaire au pluriel.
Il démarre ici.
Il commence à Bardonecchia, la dernière gare italienne de la vallée de Suse. Après, on se retrouve à Fethia. Après, on se retrouve à un carrefour où il y a eu un énorme accident avec un grumier, un transporteur de bois. Ensuite, on se retrouve dans l'Adrar des Ifogas, c'est-à-dire à l'extrême nord du Mali, vers la frontière algérienne, là où il y a des maquis de djihadistes, etc., etc. On va à Paris aussi, on va dans divers endroits, mais tout tourne autour d'un endroit qui s'appelle Aiguière, qui est un endroit imaginaire qui ressemble beaucoup à d'autres lieux, qui ressemble à Émoutiers, mais qui ressemble aussi à d'autres lieux du plateau. Et j'ai pas voulu jouer le petit jeu de rapporter des choses qui sont trop directement vécues ou directement qui des allusions à des personnes particulières vivant autour de moi. Disons que mon imaginaire s'est nourri de ce qui s'est passé, de ce que je vis tous les jours quotidiennement, et que j'ai fait des personnages composites, que bon, il y a de l'humour, je m'en moque un peu beaucoup parfois, mais c'est je crois pas du tout être méchant, voilà.
De qui te moques-tu?
C'est à vous de le voir en me lisant. Et on peut peut-être demander à Anne, qui veut bien lire deux passages, deux extraits du bouquin.
Loup solitaire, au pluriel.
À la hauteur des guerres, la vallée de la Vienne se resserre avec d'un côté le bourg regroupé sous le roman carré de sa tour des origines ou le roman des origines de sa tour carrée. Et de l'autre, une rive droite où des maisons des siècles passés surplombent terrasses et pelouses arborées descendant jusqu'à l'eau. Située près du bois de l'Être, la maison de Jane fait face à la gare sur l'autre rive. Avec ses pignons, ses combles à œil de bœuf et ce toit d'ardoise qu'on aperçoit à travers des branchages dénudés par l'hiver, le bâtiment de la SNCF pourrait aisément se reconvertir en demeure de charme, et c'est d'ailleurs le cas de quelques autres stations moins fréquentées le long de la ligne, devenues résidences secondaires pour nordiques pas gênés que les voyageurs scrutent plusieurs fois par jour leur salle à manger, puisque c'est ainsi qu'ils vivent, plus haut sur la carte, dans une visibilité protestante sans rideau près Big Brother. Bientôt, conformément à une logique économique désormais sans rapport aucun avec la logique tout court, la ligne du TER s'interrompra là, juste en face de chez Jane, alors même qu'on vient de rénover la voie jusqu'à Ussel. En attendant, jusqu'aux environs de 22h, on entend les coups de trompe de l'express régional aux voitures profilées, qui débouche du tunnel ou s'y engouffre, l'interminable onomatopée du moteur de la rame à l'arrêt, la corne des camions, la pétarade des jeunes à deux roues qui tiennent à proclamer en pétaradant qu'ils sont jeunes. Plus rarement, le tourment persistant d'un engin de jardin. Ce ne sont toutefois que coups d'épingle, de loin en loin, dans le molleton de silence enveloppant la plupart du temps le bourg. Il faut ouvrir la fenêtre et tendre l'oreille pour percevoir que la texture de ce silence est faite de pépiments légers, discrets chuintements des feuillages, piétinements de chouka sur le toit. Mais dans la pleine nuit, quand plus rien ne bouge, inutile d'ouvrir, même à travers vitres et volets. On n'entend plus qu'un bruit de déchirure sans fin dans l'étoffe du temps, c'est l'eau de la Vienne qui coule. À plusieurs reprises durant la première nuit, le docteur Christian Ménandier avait été réveillé par les manifestations d'affection du chat qui s'était pris de lui. Bond sur la poitrine ou langue râpeuse sur le nez. Chaque fois, il avait déplacé la bête sans avoir le courage de se lever pour la foutre dehors et fermer la porte. Puis il s'était collé à Jane et coulé dans le son de la rivière, ramenant prestement le nez dans le sein du somme. En cette deuxième nuit, comme ils ont pris la précaution de fermer la porte à la truffe du chat, Jane et Christian dorment depuis 2 heures, happés par le néant d'après la gymnastique amoureuse, quand un grand bruit métallique l'éveille. Il écoute. Roulement, tremblement, ferraillage, cling, clang, clong. Il se lève, écarte le rideau de la porte-fenêtre donnant sur la terrasse. Au-delà de sa rambarde, dans une trouée des arbres, quelques mètres en avant de la gare, et sous un éclairage brutal de projecteurs, Christian voit des gens en combinaison rouge s'affairer autour de wagons blancs blindés sans fenêtres, au toit inhabituellement courbe. Comme la motrice est dissimulée par la végétation des berges, le chirurgien ne saurait dire de quelle direction vient le train, si c'est Ussel ou bien Limoges. Pas un bruit de voix. On va, on vient, on manie des objets métalliques qui cognent parfois contre les roues. Puis les gens disparaissent vers l'avant ou l'arrière du convoi. Bientôt, de nouveau, on n'entend plus que l'eau, contemplant la puissante masse d'inertie anxiogène, Ménandier reste longtemps plongé dans une immobilité mimétique. Puis il se recouche, du temps passe, Jane bouge, se recolle à lui, ronflotte. Enfin, il entend le train rouler doucement, puis prendre de la vitesse, en direction de Limoges, pense Christian. Et juste avant de se rendormir, il se dit qu'il faudra qu'il interroge Jane à ce sujet. Mais le lendemain, après un nouvel accès d'infini à la portée des caniches, qui leur prendra toute la journée, quand ils iront le soir venu se promener dans le bois de lettres et qu'il sera sur le point de demander à Jane si elle a déjà remarqué la présence de trains blindés la nuit à Aiguière, un homme muni de lunettes de visée nocturne surgira du sol derrière eux.
Il y a un personnage qui s'appelle Pierre Diboun, qui est un agent des forces spéciales, un crack des forces spéciales, qui a été infiltré dans une katiba de djihadistes du nord du Mali pour guider les frappes des drones, qui en fait désertent. Mais on ne sait pas de quelle armée il a déserté. S'il a déserté les djihadistes ou s'il a déserté l'armée française, on sait qu'il revient en France, mais grâce à une ruse qu'il utilise, il échappe absolument à toute surveillance, et il échappe à tout, malgré que toutes les caméras de vidéosurveillance de France aient été mises en alerte et que la NSA s'en mêle. On perd absolument toute trace de lui, on ne sait plus du tout où il est, il échappe à toutes les caméras. Et en fait, il réapparaît dans un village, dans un bois, et à côté d'une femme qui travaille sur la base de la Courtaude, d'où en fait sont pilotés les drones de la guerre secrète contre les djihadistes. Et on ne sait pas du tout quels sont exactement les desseins de ce personnage. Évidemment, tous les services secrets sont sur les dents, y compris un service secret très particulier, une forme de service secret dévié qui ressemble à ce qu'a été Gladio à l'époque de la guerre froide, qui était un service qui avait été créé par l'OTAN pour organiser la guérilla en Europe au cas où l'armée rouge arriverait, et qui en fait est devenu un service secret qui a fait fomenter en particulier les gros attentats-massacres et la stratégie de la tension en Italie pour empêcher, dans l'idée d'empêcher les communistes d'arriver au pouvoir. Et là, il s'agit d'une association de gens qui sont persuadés que les djihadistes vont finir par prendre le pouvoir en Europe et qui veulent... Et donc, les services secrets officiels et les services secrets officieux sont tous en train de se demander que veut faire Diboun et le cherche. Voilà.
Et nous, on le suit.
Et nous, on le suit, on le retrouve, et après, il mène une vie pépère assez étrange dans la cabane de jardin que lui propose Jane, après un premier contact assez rugueux. Voilà. Et je vous laisse découvrir la suite. Et simplement... la folie des hommes sera contrée par la sagesse des animaux.
Oui, alors en couverture, on voit la photo d'un loup.
Oui, parce que en plus, donc évidemment, la question qui se pose, c'est est-ce que Pierre Diboune est un loup solitaire ? Et en fait, il y a aussi un loup, un vrai loup, qui commence à entrer sur le plateau et dont on suit à la trace. Voilà.
Ce livre est d'actualité.
La question de la présence du loup dans les campagnes françaises est d'actualité depuis quelques milliers d'années. j'aimerais bien que Anne nous relise un passage, si tu veux bien. Tu veux bien ?
Qui ne se déroule pas sur le plateau de Millevaches, mais ailleurs.
Tu verras.
La destruction des nuisibles. Dans le camp pakistanais de Mir Ali, province de Khyber Pakhtunkhwa, dans le Waziristan du Nord, il est 4 heures plus tôt que dans le camp français de la Courtaude, sur le plateau de Millevaches, Limousin. 19h45, c'est l'heure où, selon l'algorithme, Wassim Jamali doit sortir du bureau qu'il occupe dans le bâtiment d'intendance de l'unité 101 des frontières Corps, et de fait, il sort. Wassim tient sous son bras gauche un casque offert 7 ans plus tôt par l'ONU pour soutenir l'effort d'éradication de la culture du pavot mené par son unité de garde frontière, et en marchant vers sa moto de l'autre côté de la cour, il tousse. Le vent glacial qui vient de l'Afghanistan et la poussière jaune d'une vallée où il n'a pas plu depuis l'hiver précédent y sont sans doute pour quelque chose, ainsi et surtout que l'amiante dont est bourré le bâtiment où il travaille 4 jours par semaine depuis 10 ans. L'algorithme n'a pas enregistré le mauvais état de ses poumons, mais bien ses fréquents déplacements au prix d'une nuit de route défoncée jusqu'à Peshawar, dans un quartier où voisine une mosquée tenue par Al-Qaïda, et un hôpital où officie un cousin par alliance de Wassim. Ces voyages ont conduit l'algorithme à le sortir du premier niveau des 3 millions d'enregistrés pour le placer au deuxième, celui des 300 000 surveillés. Pour les spécialistes du renseignement militaire qui ont promis ce genre de méthodologie, l'espoir initial était, conformément à un modèle d'intelligence, de surveillance et de reconnaissance, ISR, hérité de la guerre froide, de parvenir à modéliser des signatures comportementales caractéristiques de formes de vie terroristes. Mais cette ambition se heurte à un problème fondamental. Dans des contextes où les mauvais éléments ressemblent comme 2 gouttes d'eau au bon, les cibles sont dépourvues de signatures claires permettant leur détection directe. L'idée est donc de cerner le typique pour repérer l'atypique. On développe alors des schémas de vie permettant d'identifier les activités normales et les activités anormales. Grâce au programme de détection des anomalies à grande échelle, en accumulant les tracés dans le temps, l'algorithme a donc repéré l'augmentation soudaine de la fréquence des voyages de Wassim pour se rendre à une mosquée dominée par Al-Qaïda, mais sans intégrer le fait que c'est la seule du quartier, et à l'hôpital Al-Dar où de nombreux talibans se font soigner, sans tenir compte du fait que c'est le cas de tous les hôpitaux du nord-est pakistanais. En conséquence, l'algorithme a fait passer la signature comportementale de Wassim du niveau des 300 000 surveillés à celui des 150 cibles potentielles. Des informations provenant de la surveillance des réseaux sociaux, de la poste électronique et des communications téléphoniques ont permis d'apprendre que, dans son village de la tribu Outmanzai Wazir, des talibans vivent à l'abri des incursions de l'armée pakistanaise, mais pas qu'on y considère comme sacré, la Pashtunwali, la coutume Pashtun qui interdit de livrer un hôte, si peu apprécié qu'il soit, à l'ennemi. Puis un renseignement humain a annoncé qu'un attentat suicide est prévu dans une caserne de la frontière dans les 3 jours à venir, au moment de la visite d'experts américains. La venue d'un groupe d'Occidentaux, dont 2 ressortissants des États-Unis, est prévue pour le lendemain au camp de Mir Ali. Il ne s'agit pas d'experts, mais de journalistes. Néanmoins, l'algorithme a considéré que Wassim avait acquis la signature de terroriste sur le point de passer à l'action. Si Jane avait été moins distraite, elle aurait peut-être détecté certains défauts dans les informations fournies, mais sa tête est prise par les questions qu'elle se pose sur Pierre Diboune, et pour une fois, elle décide de s'en remettre totalement à l'algorithme. Analyste censeur ce soir, elle ne sera que censeur. le prédateur qu'une équipe locale a fait décoller 30 minutes plus tôt de la base de Kandahar, est maintenant en vol stationnaire, indétectable à 6000 pieds au-dessus du camp de Mir Ali. Jane sait que Wasim met environ 42 secondes pour arriver à sa moto, puis environ 30 autres pour se retrouver sur la route, entre le mur du camp et celui du cimetière. C'est à partir de ce moment, et pour encore 27 secondes, que, selon la planification de la frappe, les missiles Feu de l'Enfer devraient être tirés. Bien que l'autorisation de tir ait été donnée depuis 48 heures, Jane efface tout à fait l'image de Pierre de son esprit et décide de jeter un dernier coup d'œil aux éléments qui ont nourri l'algorithme. Mais Buck, son collègue installé à côté d'elle au poste de pilotage, lui signale que, pour une raison inconnue, le prédateur a décollé de la base avec des réservoirs à moitié vides et qu'ils n'ont pas une seconde à perdre. Jane met ses écouteurs. Wasim démarre sa moto et s'engage sur la route. Jane le conserve au centre de la grille de son viseur. Son collègue maintient l'altitude du prédateur et son orientation vers la cible. À 3690 milles de la grandiose vallée pelée où résonne le grondement de la moto, Jane déclenche les feux de l'enfer. Une femme sort du cimetière. Chaque missile ne contient que 12 livres d'explosifs, de sorte qu'il convient de viser un peu en avant de la cible pour être sûr qu'elle sera déchiquetée par les éclats. Ce qui advient en effet à Wasim, mais aussi à la femme qui vient de sortir du cimetière. Quand la fumée se dissipe, rien dans les débris humains que Jane distingue ne lui indique qu'il y a deux cadavres. Wasim n'existe plus, et le lendemain, l'équipe suivante notera que ses funérailles ont attiré peu de monde, signe qu'il n'était pas un taliban de haut niveau. Un autre enterrement, encore moins peuplé, aura lieu dans le carré des femmes, mais il restera inobservé et l'identité de celle qu'on enterre demeurera inconnue, de même qu'on ne saura jamais si Wasim profitait de ses passages à la mosquée et à l'hôpital pour élaborer des projets d'attentats talibans ou s'il se faisait simplement soigner après avoir prié. Quoique contenant des milliards de milliards d'indications et des milliards de milliards d'octets, les banques de données de la CIA, de la NSA, du NRO, de la NGSIA, de la DIA, de la NGA, de l'ONI, du MCIA, de l'AFISRA, de la DEA, du FBI, des 1271 agences gouvernementales états-uniennes et des 1931 compagnies privées travaillant pour le gouvernement ne couvrent pas encore la totalité de l'existence des habitants de la planète. Dans les écouteurs, une voix dit à Jane « Du beau boulot. Tu peux venir me voir maintenant ? Quelqu'un va te remplacer. »
Voilà, donc c'est un... Comme vous voyez, on parle du plateau de Mille Vaches, mais on parle aussi d'autre chose, c'est-à-dire de l'emprise, à la fois de l'emprise de la technique et de la tournure délirante qu'a pris le complexe militaro-industriel qui fait maintenant de la lutte antiterroriste sa principale source de revenus et d'emplois. Donc, la question, c'est dans quelle mesure cette dynamique-là est devenue complètement autonome et échappe de plus en plus à tout contrôle des humains, puisque aujourd'hui, une très grande partie des cibles qui font l'objet de tirs de drones dans le monde sont désignées par un algorithme et sur lequel les humains ont peu de prise. Et il ne faut pas oublier que la très grosse majorité des pertes humaines, des gens qui meurent de ces frappes, l'immense majorité sont des civils, sont ce qu'ils appellent des victimes collatérales. Si j'essaye de parler de tout ça...
Il y a quand même des humains qui organisent ces programmes informatiques, qui choisissent les cibles, qui mettent en place les boutons, les ordinateurs qui font qu'un drone va tirer.
Oui, bien sûr, il y a des humains, mais en fait, je pense que ils ont de moins en moins la maîtrise de cet outil, quoi. Ils dépendent énormément de l'outil. Et la réalité, c'est que au moment où on décidera d'avoir une attitude réellement critique et une distance, une attitude de distance critique par rapport à cet outil qui est en train d'avoir une emprise de plus en plus galopante sur l'humain. Et là, ça concerne pas seulement les outils de la lutte dite antiterroriste, ça concerne l'ensemble de la technoscience. Il y aura qu'une chose à faire pour commencer, c'est d'arrêter tout. Et en particulier pour ce qui concerne les activités militaro-industrielles.
Loup solitaire, donc, qui vient de sortir en librairie. Est-ce qu'on en profite pour que tu fasses un point sur tes propres démêlés avec la police, voire peut-être même la police antiterroriste? Que se passe-t-il?
Je ne sais pas trop. Je pense que c'est plutôt...
Tu seras au tribunal, pardon. Donc les auditeurs ne sont pas forcément au courant de Limoges, puisque tu résides en Haute-Vienne, avec l'accusation de menace de dégradation plus légère que si elle avait été de violence sur des personnes, mais quand même, pour un post sur Facebook pendant le mouvement social de 2016, te voilà au tribunal en novembre 2017.
Menace de dégradation de bâtiments sans danger pour les personnes. Je ne savais même pas que ça existait, menace de dégradation de bâtiments sans danger pour les personnes. Rien que l'intitulé, c'est déjà farcesque, tu vois. Tout ça à cause d'un commentaire sur le profil Facebook d'un jeune ami qui s'appelle Joseph Kassem, qui est un écrivain slammer qui a participé de près au printemps 2016 à Alès et qui parlait de ses démêlés avec les journalistes du Midi Libre. Et dans un commentaire, je lui ai dit « tu pourrais aller redécorer la façade ». Je parle du bâtiment, bien sûr, j'ai mis entre parenthèses. Sinon, il y a les tartes à la crème, voilà.
Et pour ça... sachant surveiller, tu as pris des précautions dans ce commentaire.
De toute façon, je ne suis pas partisan de... Au stade des luttes de classe actuelles en France, je ne suis pas partisan du recours à la violence, et évidemment pas à la violence armée. Ça a exprimé. C'est pas parce que je me savais particulièrement surveillé. J'imaginais pas que j'étais surveillé à ce point-là. Parce que ce qui est curieux, c'est que donc ce présumé délit concerne une affaire qui se passe à Alès, et l'affaire a été dépaysée à Limoges l'initiative du procureur de Limoges. Apparemment, il y a des gens dans la magistrature et chez les gendarmes de Haute-Vienne qui n'ont rien d'autre à faire que de s'occuper de mon cas. Mon activité est entièrement publique. J'ai absolument rien à cacher. Ils voudraient à tout prix faire comme si j'avais une activité clandestine particulièrement périlleuse pour la société. Or, l'essentiel de mon activité, la totalité de mon activité est parfaitement publique. Donc voilà, ça les a amenés à faire une enquête dans la boutique informatique des Moutiers parce que j'avais demandé un coup de main pour initialiser un nouvel ordinateur au jeune homme qui s'en occupe, et ils sont allés lui poser des tas de questions en disant que j'avais utilisé son adresse IP, enfin bon, des choses absolument qui m'ont simplement montré que j'étais surveillé de près par ces gens-là. Bon, le risque n'est pas énorme, puisque je suis poursuivi seulement devant le tribunal de police. Mais le simple fait qu'on déplace tant de gens, qu'on dépense tant d'énergie pour casser les pieds, pour faire perdre du temps à quelqu'un comme moi, montre juste que les forces de maintien de l'ordre, de l'injuste ordre social dans lequel nous vivons, sont un peu sur les dents, quoi, et donc sont inquiètes, et je pense que ce serait quand même à nous d'essayer de nous hausser au niveau de leur inquiétude, au moins, qu'on mérite que leur inquiétude ne soit pas déçue, voilà. Et donc le 16 novembre à la Consolante.
À Aymoutier,
au Café culturel La Consolante. Joseph Kassem slamera ses textes en compagnie d'une amie qui slamera avec lui et d'une contrebasse qui les accompagne. Et je serai présent et on dira deux mots sur cette affaire qui n'est pas l'affaire Dreyfus, évidemment, mais qui est un petit truc indicatif quand même de l'état d'esprit dans la France du XXIe siècle. Voilà.